allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, il fait chaud, il fait soif, alors restez au frais et écoutez-nous jusqu'à midi et demi. Nous avons déclenché notre plan anti-canicule hein, grâce aux produits de saison et à des idées rafraîchissantes. Alors qu'il fasse chaud ou froid justement, elle se décarcasse pour nous simplifier la vie en cuisine et nous tenir au courant des tendances culinaires. Anne-Laure Pham est avec nous, bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous et j'ai hâte de vous emmener en terrasse tout à l'heure.
La chaleur ne lui fait pas peur, il adapte son goût du bon sens en toutes circonstances. Yves Candebord est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour, on aime le soleil dans le sud.
Mais oui, vous avez bonne mine, hein, dites donc. Je ne sais pas où vous êtes allé prendre le soleil, mais vous l'avez pris. Le journal de la cuisine nous mettra à la page des dernières nouvelles de notre alimentation, comme tous les samedis. Alors fraises, framboises ou chocolat? Qui n'a pas envie d'une bonne glace avec cette chaleur? Eh bien, nous recevrons Martine Lambert, la reine de la glace artisanale sur la côte normande sera avec nous. Jean-Luc Petit-Renaud revient ce samedi avec une bonne adresse dont il a le secret. Et puis, il est le journaliste préféré des Français, c'est l'ami du déjeuner, Jean-Pierre Pernaud sera avec nous sur les coups de midi pour déguster des abricots à la chantilly, bien fraîches surtout. Voilà, vous savez tout. Allez, allons-y gaiement. Alors je rassure les admirateurs et les admiratrices d'Olivier Pouls, il sera avec nous la semaine prochaine, il est juste au frais dans sa cave et il range ses belles références pendant tout le week-end.
Il se bonifie.
Voilà. Alors une adresse, une rencontre, une recette, quel est votre goût de la semaine? Réfléchissez-vous chez vous, à la maison ou dans votre voiture, quel est le goût qui a marqué votre semaine? On va commencer par vous, Anne-Laure Pham.
Je vous emmène un petit peu au frais, au nord, dans les Flandres, sur la côte, pas très loin de Dunkerque d'ailleurs, un peu à l'est, chez Willem Hill, à Coxyde. Il a eu la drôle d'idée d'ouvrir un restaurant là-bas et c'était magnifique. Franchement, une bisque de crevettes grises inouïe et un plat d'asperges sauvages, mais qui me restera en tête, mais pour la fin de l'éternité, j'ai envie de dire.
Une bisque de crevettes grises, ça fait envie,
Willem
ça.
Willem Hill, allez-y, vraiment.
Eh bien, écoutez, on va noter l'adresse.
Eh bien, tiens, justement, Yves Candebord, votre goût de la semaine?
Moi, c'est Cocorico, Laurent. Cocorico, le restaurant, le Mirazur, qui a été élu plus grand restaurant au monde. C'est le chef Mauro Colagreco, un Italien.
Cocorico Colagreco.
Cocorico Colagreco. On le félicite et on est très fiers d'être français, très fiers que ce restaurant soit le plus grand restaurant du monde.
Oui, puis c'est vrai que c'est une très belle cuisine, hein, voilà, du côté de Menton sur la Côte d'Azur. Mon goût de la semaine, c'est celui des moules marinières, figurez-vous, au restaurant du Cap à Escale. J'étais en tournage là-bas, sur la baie de Somme et ensuite sur la Côte d'Opale. Escale, c'est sur la Côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. C'est un restaurant avec une cuisine traditionnelle où le temps s'est arrêté. On a envie de voir une communion, un baptême, un mariage dans les grandes salles. C'est une équipe qui est aux petits soins. C'est un petit côté années 70. Les moules venaient de Vimereux, juste à côté. Voilà, le restaurant du Cap à Escale, une belle adresse que, comme on les aime, on n'a pas envie que ça bouge et le temps s'arrête et parfois ça fait du bien. Alors direction le marché et la Gironde à la Teste de Buch pour démarrer notre émission. C'est une des plus grandes communes de France en superficie, c'est près du bassin d'Arcachon. Et entre les poissons de saison et les spécialités locales, Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, vous a tendu le micro.
Du saumon sauvage, c'est hyper rare à en trouver. Donc, la joie, en plus, le prix, il est assez abordable, 32,95. Et ça se voit que c'est du saumon sauvage parce que la couleur, elle est rose pâle. Que le saumon d'élevage, en fait, il est orangé. Ça va être une cuisson très rapide, cuisson sur peau, sans beurre, sans rien.
Votre étal attire beaucoup de monde. Quels sont les poissons qu'il faut manger en ce moment?
Le maigre, la lotte, les rougets, les soles. Ils sont pêchés dans les 24 heures. C'est pêché dans le golfe de Gascogne. Les 4 soles, 10 euros. On a de la petite lotte qui est à 16 euros le kilo. De la petite lotte friture.
On vient systématiquement à la Teste. C'est le début des cerises. Les fraises, il y a les asperges, c'est fini. Non, 2-3 bricoles comme ça.
Il y a des spécialités, là, les tourtières. Ben oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'ici. Hein. Quand on est en vacances, ben voilà. C'est une tarte fine avec...
De la pomme.
Oui, et puis dessus, c'est comme des
pruneaux.
Crêpes très fines qui sont positionnées un peu comme des chips. C'est très sucré, c'est très bon.
Ah oui, ça fait envie. C'est bien la tourtière, avec une belle boule de glace à la vanille, ça marche.
Ça me donne tout de suite envie. Et les poissons pas chers, ça me fait vraiment rêver, hein, toute parisienne
Laurent,
que je suis.
Une belle boule de glace à l'armagnac.
Ah oui, aussi. Ah, oh, ça c'est bien. Oui, Yves Candebord, je vous reconnais bien là, dites donc. Le week-end, c'est le moment pour aller au marché, évidemment. Mais alors, avec les chaleurs du moment, allez-y tôt le matin à la fraîche. Hein,
ah,
parce
oui.
que c'est vrai que c'est là qu'on se refait un petit coup de santé pour
la
journée.
Hein,
on est d'accord, Yves Candebord?
Complètement. Mais en plus, c'est vrai que c'est le matin qu'on a les étals qui sont charnus. où il y a tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces victuailles qui sont mises en valeur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de le prendre de bonne heure, parce que comme ça, en plus, quand on rentre à la maison, on a le temps de cuisiner.
Exactement, voilà. Donc, de toute façon, on ne dort pas longtemps. Hein. Quand il fait chaud comme ça, on se réveille tôt. Donc, au marché, de bonne heure et de bonne humeur. Il fait chaud, alors justement, la nature est bien faite. C'est la saison des courgettes, dites-moi. Riches en eau et en fibres, elles arrivent à point. On vous emmène du côté de Nice pour les récolter et les cuisiner. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ce samedi, la table des bons vivants s'intéresse à un légume vert qui ne plaît pas à tout le monde. Et pourtant, Laurent, la courgette cache bien des surprises.
Elle est fraîche et de saison. La courgette, Justine, effectivement, s'installe à la table des bons vivants. Et vous allez entendre qu'elle a plus d'une recette dans son sac, la courgette. On va briser d'ailleurs une fameuse réputation, une mauvaise réputation. La courgette n'a pas de goût. Elle a du goût, la courgette.
Non. Ah non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de goût. Elle a un goût qui est subtil.
Ah, c'est bien dit.
Voilà, c'est tout en finesse et c'est délicat.
Et c'est aussi parce qu'on a écopé de la courgette d'Espagne qui a inondé les grandes surfaces. Donc forcément, on a perdu un peu en goût. Exactement le même syndrome que la tomate.
C'est la même chose. La courgette hors sol, voilà, on en a toute l'année. On ne sait plus les distinguer.
Et c'est dommage parce que c'est aussi un légume de saison. Il ne faut pas l'oublier.
Entre la jaune et la verte, il existe de nombreuses variétés. Alors, on parle bien de celles cultivées en pleine terre. Et évidemment, c'est vrai que c'est délicat, le goût de la courgette. On peut la déguster crue, en plus, avec les chaleurs qu'il fait. Enfin, on va en parler dans un instant, mais ça fait du bien.
Mais je pense qu'il faut la déguster crue, justement. C'est là qu'elle a toute sa saveur, c'est là qu'elle a toute sa subtilité, ce petit côté noisette qui apparaît.
Herbacé.
Très léger. Il faut la mariner, mais vraiment... J'ai envie de vous dire pratiquement à la minute. Il ne faut pas que ce soit mariné trop longtemps à l'avance, sinon elle perd son eau de végétation. Simplement un petit vinaigre très subtil ou un petit jus de citron, un trait d'huile de noisette avec une râpée dessus de citron. Et on a quelque chose de frais et très léger.
On va vous donner plein d'idées de recettes dans un instant, vous allez entendre. C'est un légume qui a mis du temps à s'installer à notre table, Anne-Laure Femme, la courgette.
Et hein. Oui, on va dire merci aux Italiens, Laurent, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de la cueillir avant maturité au XVIIIe siècle. Courge, courgette, zucca,
oui.
Zucchini.
Eh oui, zucchini en italien.
Et la courgette, c'est un légume qu'on consomme depuis assez récemment, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'elle a mis du temps à gagner l'Europe du Nord. Et elles ont été rapportées du Nouveau Monde par les premiers explorateurs.
Ronde, allongée, jaune, ouverte, claire ou foncée, il en existe de nombreuses variétés. Alors direction tout de suite la région niçoise. Une belle terre à courgettes avec Frédéric Michel, c'est le correspondant d'Europe 1 dans la région. Alors nous connaissons la petite courgette ronde de Nice qui est idéale à farcir. Mais il en existe une autre qui fait la fierté du coin. C'est Julien Laine, un jeune maraîcher bio installé à Villeneuve-Loubet qui nous la présente. Rendez-vous à la fraîche dans le champ de courgettes avec Anne qui aide à la récolte. Au micro de Frédéric Michel.
Il faut récolter la courgette de Nice à l'aurore, toute pleine de rosée en fait. Hein. La voici, la voilà, on est en plein dans la saison.
De la courgette niçoise. Alors que vous appelez la trompette. Hein.
Ah oui, oui, je l'appelle la trompette moi. Alors on l'a tuteurée en fait. On l'a fait grimper comme une liane sur un filet. C'est pas courant ici, on l'a fait plutôt courir sur le sol, mais nous on l'a fait en hauteur.
Je vois, on passe sous un pont de trompette.
Voilà, c'est tout à fait ça, une tonnelle de trompette, ce qui facilite aussi la récolte. Hein, Anne?
Oui, parce qu'on n'est pas obligé de se pencher par terre. Et puis elles n'ont pas de terre.
Il a plu, elles devraient être pleines de terre. Et en fait là, en altitude, ben regardez, elles sont saines, elles sont magnifiques. 20-30 cm. Vert clair, tigré, avec cette fleur magnifique.
À chaque trompette qu'on coupe, il y a une abeille dans la fleur.
Vous l'aimez comment, cette courgette niçoise?
Elle est tellement ferme, elle n'a aucune graine, je la préfère à la vapeur. Vapeur, j'adore la manger froide, avec un petit filet d'huile d'olive, fleur de sel et un petit poivre, voilà.
Il ne faut pas oublier la fleur qu'on mange en beignet de fleurs de courgette. Le fruit, la fleur, tout se mange, c'est merveilleux.
Mais voilà, c'est ça qu'on aime dans la courgette. Effectivement, on peut farcir la fleur et puis on peut déguster comme ça, cru ou cuite, on va vous en parler justement. Le fruit, parce que c'est un fruit, c'est le fruit de la fleur, hein, ce légume qu'on aime déguster en été, Anne-Laure Femme.
Et il faut rajouter que la courgette, c'est très utile dans les recettes sucrées aussi, on n'y pense pas
oui.
assez. Ça peut remplacer le beurre, ça ajoute un moelleux mais magnifique à certains cakes que j'ai déjà essayé. Allez-y, essayez, ça va transformer vos gâteaux.
Un gâteau au chocolat et à la courgette,
chocolat,
ça marche.
Courgette, ah, oui. Une association très classique.
Alors c'est vrai qu'elle a une chair fondante, elle fait du bien, elle rafraîchit. Alors je vous ai fait des tagliatelles de courgettes, juste assaisonnées avec un filet d'huile d'olive, du jus de citron, du parmesan pour relever tout ça et de la coriandre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire ce week-end. C'est hyper simple.
C'est super, Laurent, parce que vous avez coupé le parmesan en copeaux, donc du même calibre que les tagliatelles de courgettes. Du coup, ça se mêle nickel. Tout se complète à merveille.
Yves Condebord.
Et là, j'ai envie de vous dire, Laurent, Le plus dur, c'est faire simple, et vous y êtes arrivé.
Voilà, tant mieux. Non mais, t'as beaucoup compliment. De saveur, c'est vrai que c'est simple, c'est agréable ça. Hein.
Et par contre, il faut surtout dire une chose, ne les faites pas bouillir à l'eau. Mmh. Parce qu'il y a une tendance à faire bouillir les légumes dans de l'eau, quand on met des légumes dans de l'eau, on les lave, on les dénature. Donc à la limite, si vous voulez faire chaude, une poêle, un trait d'huile d'olive, on va la poêler, la caraméliser, mais en la gardant croquante. C'est-à-dire qu'on va la juste attiédir en gardant la consistance de cru. Et après, on peut déglacer soit avec un petit vinaigre, soit un petit jus de citron, ou voire même un jus de pamplemousse. Et ça vous fait une petite entrée, si vous voulez faire froide, ou un accompagnement d'un poisson. C'est simple, c'est efficace.
Et puis on rentre dans la période de la ratatouille, une ratatouille à la niçoise où on cuit les légumes séparément. Yves Condebord, vous validez ça?
Oui, totalement, parce que ce qui est intéressant justement, Laurent, de cuire les légumes différemment, individuellement, c'est qu'on a des structures différentes. Et c'est très plaisant quand on met ça
qu'est-ce
au palais.
Qu'est-ce que c'est bon, ça?
Ça déclenche une émotion sur les papilles gustatives qui est remarquable.
Et c'est long à faire, mais c'est bon.
Et oui, puis avec ces chaleurs, il faut en faire beaucoup, effectivement, parce qu'on peut en manger plusieurs jours.
Ce n'est pas long de le cuisiner, alors c'est du plaisir.
C'est que de l'amour.
C'est du plaisir, c'est que de l'amour.
Il faut la prévoir, la ratatouille, messieurs, quand même.
Mais avec cette chaleur, on la déguste froide. Et une petite mise en place de taillage de légumes, mais après, ça va vite. Non, voilà, faites une belle ratatouille froide pour ce week-end. Allez, ne bougez pas. Quoi de neuf dans nos assiettes? Vous saurez tout avec le journal de la cuisine. Et il y aura des glaces aussi avec Martine Lambert. A tout de suite sur Europe 1.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
De 11h à midi et demi, vous êtes entouré par l'équipe des bons vivants d'Europe 1 qui a plein d'idées pour vous donner un petit peu moins chaud ce samedi.
Merci Justine, de la fraîcheur et du bon sens. Voilà le menu ce samedi à la table des bons vivants. Jean-Pierre Pernaut nous rejoint sur les coups de midi. Mais pour l'instant, c'est l'heure du journal de la cuisine présenté par un duo que les chaînes d'information vont nous envier, vous allez entendre. Anne-Laure Femme et Yves Condebord. Voici les titres du journal de la cuisine.
Un rosse de sucre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation pointe du doigt une consommation excessive de sucre chez les plus jeunes.
Glace au Viagra ou à la pomme de terre, les glaciers n'en finissent pas de nous étonner cette année.
Les chaînes de fast-food sont priées de faire le tri. Elles se sont engagées auprès du ministère de la Transition écologique mardi dernier.
Vous venez de le dire, Yves, l'ANSES alerte les pouvoirs publics sur les dangers du sucre pour les enfants. Il y en a partout.
Oui, oui, soda, jus de fruits, biscuits et gâteaux, ils sont fréquemment proposés à nos enfants à l'heure du goûter et surchargés de sucre. Ajoutez, Laurent, par-dessus, le sucre contenu dans les céréales, dans le pain de mie et même dans les potages industriels et vous dépassez largement la dose recommandée par l'ANSES de 85 grammes par jour pour les 14-17 ans.
Oui, il y en a vraiment partout. Hein.
Ouais.
Alors qu'il y a plein d'alternatives, Yves Condebord.
Il y a surtout, Laurent, des solutions très faciles et très pratiques. Tout simplement, un fruit, une barre de chocolat, et là, le tour est joué pour goûter.
Une glace au Viagra, c'est à croire que les glaciers sont devenus ma boule, Anne-Laure Femme.
Eh oui, pour une glace qui réchauffe pour le moins, il existe une glace au Viagra. Ça vous tente, Laurent? Ça vous tente, Yves?
Non, mais on n'a pas besoin de ça. Je me sens très bien.
Inventée en 2014 par un Anglais, chaque boule contient 25 mg de pilule bleue. On peut toujours en trouver une boule ou deux en Italie, chez le glacé Mariotti à Rome.
Ah, mais c'est un cousin.
Mais on a aussi une glace plus terroir à vous proposer. Rendez-vous à l'île de Ré avec une glace aux pommes de terre à la Martinière. Elle est à base de crème glacée caramel, d'une purée de pommes de terre AOP de l'île de Ré et de pommes de terre caramélisées.
Tiens donc.
Notre invitée, Martine Lambert Glacière, va nous aider à faire les bons choix à table.
Exactement, elle est arrivée Martine, on va l'entendre dans un instant. Carton rouge pour les fast-food, priez de se mettre au vert Yves.
Oui Laurent, il y a 25 000 restaurants rapides en France qui produisent 180 000 tonnes de déchets par an.
C'est énorme. Hein.
C'est énorme. Ceux qui continueront à tout jeter à la poubelle risqueront jusqu'à 150 000 euros d'amende. Toutes les enseignes ont été convoquées au ministère de la Transition énergétique pour être rappelées à l'ordre. Il y a une loi datant de 2016 qui les avait pourtant contraints à réduire et trier leurs déchets sans résultat. Et parmi les mauvais élèves...
Alors allez-y, balancez les noms.
Il y a McDonald's, Burger King et le groupe Paul.
Alors les enseignes se sont quand même engagées maintenant à prendre des mesures pour qu'avant la fin de l'année, 70% de leurs restaurants trient et recyclent, 100% dans les deux ans. On est sur la bonne voie quand même, Yves.
Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très intéressante.
Soyons positifs.
Europe 1, 11h, 12h30, Laurent Mariotte.
Une boule, deux boules ou trois, framboise ou cassis, vanille ou chocolat, avec cette chaleur, c'est le moment de se mettre tous au sorbet et aux glaces. Et pour nous aider à la choisir, eh bien nous avons fait appel à la reine des glaces artisanales. Elle rafraîchit Deauville depuis 1975, elle est à Paris également, c'est Martine Lambert. Bonjour Martine.
Bonjour Laurent.
On est ravis de vous recevoir. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec quelques parfums que nous allons déguster tous ensemble à la table des bons vivants. Merci d'avoir fait le voyage exprès pour nous. On connaît un gros beaucoup de chaleur sur le pays, Martine, et c'est la canicule de 76, vous, qui vous a amené à faire de la glace, en fait.
Parfaitement. Mais à l'époque, j'étais déjà installée à Deauville, mais c'était une petite activité saisonnière. J'avais un fournisseur parisien qui s'appelait la Sorbetière de Paris, et cette canicule de 76 a provoqué une rupture d'approvisionnement.
Et donc vous êtes dit, je vais le faire moi-même.
Et voilà. Pour installer la turbine, une arrivée et une évacuation d'eau, la pièce la plus appropriée fut la salle de bain.
À l'ancienne.
Et nous avons mis la turbine à la place du bidet, qui me semblait aussi un des éléments dont on pouvait se passer.
Quel était le premier parfum que vous avez fait en glace ?
Le fruit de la passion. Et ma mère m'a dit, malheureusement, c'est bon. C'est-à-dire qu'elle m'a vu partir dans ce métier qui, pour elle, signifiait beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Donc, ce n'était pas son projet pour moi.
Quels sont les parfums du moment qui ont la cote ?
Oh, nous dirions la rhubarbe. Et puis, toujours nos classiques, la vanille de Madagascar, le caramel au beurre salé que nous faisons nous-mêmes. Tout est fait à la maison.
C'est ça qui fait la différence, c'est que vous êtes une vraie glacière artisanale. Vous faites tout à la maison et vous travaillez avec des producteurs qui sont les mêmes depuis longtemps.
Mais bien sûr. Et nous, on tremble quand il y a un cyclone à Madagascar, quand il y a du gel sur les premières fleurs d'abricots en Provence. On tremble, on suit les producteurs, les arboriculteurs, parce qu'on travaille avec une personne pour l'abricot, une personne pour la pêche, une personne pour la vanille.
J'en ai
et une
cassis,
personne
hein.
pour le cassis qui vient de Nuit-Saint-Jean.
Ah, il est beau votre cassis, hein. Yves Candebord, vous avez quelques glaces devant vous. Vous êtes un fan de glace aussi.
Je suis un fan de glace parce que c'est vraiment le produit que je pourrais manger toute l'année sans aucun problème. Et c'est vrai que là je suis sur de la fraise et j'ai vraiment l'impression de croquer de la fraise.
Alors ça c'est de la mara des bois plein champ. Et ça c'est une difficulté énorme maintenant au point de vue approvisionnement puisque...
Tout est hors sol.
Tout est hors sol pour la raison que le ramassage... La cueillette, plus exactement, de la fraise de plein champ est deux fois plus longue.
Bien sûr, et fatigante parce qu'il faut se casser par terre. Voilà, mais on peut remercier quand même de nombreux maraîchers qui se remettent à faire de la fraise de pleine terre. Ils ne sont pas encore assez nombreux pour l'instant, mais redécouvrons le goût de la fraise de pleine terre qui n'a évidemment pas le même goût. Qui a inventé la glace, Anne-Laure Femme ? C'est une vieille histoire, ça, quand même, parce qu'on a du mal à retrouver les premières crèmes glacées.
Alors, les premières glaces, c'était des sorbets. Et ça, on en est sûr. Pour le reste, c'est un peu plus flou. Et c'était il y a très longtemps. Alors, tout ce dont on est sûr, c'est que les Chinois mettaient, il y a plus de 2000 ans, des jus de fruits ou du vin dans des tonneaux et faisaient couler dessus un mélange de neige et de salpêtre dessus. Je ne sais pas si c'était très digeste. Et en Afrique du Nord, en même temps, on fabriquait des boissons aux fruits glacés qui étaient appelés des sorbets. C'est l'ancêtre
joli.
Du sorbet.
Bien vu. Et les crèmes glacées, ce sont les Italiens, Yves Candebord, qui ont eu la bonne idée de nous les faire découvrir.
Oui, totalement. Ça vient d'Italie au XVe siècle. Alors, on ne sait pas si c'est une gourmande ou un gourmand anonyme qui a eu l'idée de rajouter tout simplement de la crème dans un sorbet. Et ça a fait une glace. Et c'est Catherine de Médicis qui mangeait les glaces à Florence. Elle les a emportées en France à l'occasion de son mariage avec Henri II en 1533, qui a apporté ces glaces. Et on a trace aussi au fameux restaurant Le Procope.
Ah oui, le plus vieux café de Paris, dans le 6e arrondissement.
Voilà, qui avait été créé par un Sicilien et qui proposait pratiquement plus de 100 parfums de glace différentes.
Alors c'est vrai que la différence entre une crème glacée et un sorbet est la suivante. Il y a de la crème, comme son nom l'indique, dans une crème glacée, dans une glace. Et le sorbet, c'est simplement de la purée de fruits avec du sirop. Vous confirmez, Martine Lambert ?
Pas chez nous, la purée de fruits, on commence par le fruit.
Oui,
la purée de fruits.
Oui, non, mais du fruit, bien sûr.
Mais c'est la grande différence,
oui,
justement, avec les autres.
Il est transformé en purée, votre fruit, quand même.
Oui, voilà. Il est écrasé, centrifugé et pépiné.
Alors, comme toutes les recettes qui font recette, justement, les glaces sont victimes de mauvaises méthodes. On vous aide à y voir plus clair dans un instant avec Martine Lambert, la reine de la glace. Ce sera juste après ça et un peu de musique. À tout de suite.
Europe 1. Vous l'avez remarqué, pour sûr, bien sûr, il fait très chaud en ce moment. Et qu'est-ce qu'on mange quand il fait ce temps ? Eh bien justement, des glaces. Et ça tombe bien, votre invité Laurent en est la spécialiste.
Nous voilà de retour avec Martine Lambert qui fabrique des glaces artisanales depuis 4 décennies. Maintenant, une question, tiens Martine. Quelles sont les règles pour reconnaître une glace artisanale quand on se balade dans la rue et qu'on découvre un artisan glacier ?
Eh bien c'est pas facile parce que pour un artisan véritable, c'est-à-dire qui fabrique le produit qu'il vend, vous avez 10 pseudo-artisans qui se privent pas pour mettre de jolies affiches sur leur boutique ou sur le lambrequin du store.
Il n'y a pas de réglementation,
exactement.
En fait. Alors, pour savoir si on a affaire à une glace artisanale, il faut discuter avec son glacier, lui demander d'où viennent les matières premières, comment c'est fait. On a vu beaucoup de choses avec les glaces industrielles, Yves Candebord, où on se rend compte qu'on a des glaces qui sont foisonnées, où on rajoute de l'air à l'intérieur pour vendre du vent, quoi, en fait,
ouais,
tout simplement.
Mais alors, s'y rajoutait que de l'air, je dirais, en fait, ça serait moindre mal, on va dire. Mais c'est vrai que la législation sur les glaces, c'est un flou artistique. Et la seule moyen vraiment de les reconnaître, ben, c'est le goût, quoi. Vous savez, quand vous prenez une glace, que vous sentez un peu, il y a une forme d'élasticité en bouche, même un crémeux excessif, quoi. C'est que c'est chimique, quoi. C'est pas naturel. Alors, moi, j'ai vécu une expérience dernièrement qui m'a complètement subjugué. C'est qu'on a fait une quenelle de glace avec une glace industrielle sans citer de marque. On l'a déposée sur une poêlée de fruits chauds.
Chaud, oui, pour faire un chauffe-froid.
Elle a mis 5 minutes à fondre. Oui, là, il y a un gélifiant dedans, mais c'est vrai que quand on la mange, voilà, il y a ce côté excessif, quoi, où on a pratiquement l'impression de manger un marshmallow. Voilà,
alors que la glace au cassis, enfin le sorbet cassis que nous a apporté justement Martine Lambert, là vous voyez, il est dans le studio depuis 5 minutes, ben là il est en train de bien fondre justement, alors qu'on a un petit peu la clim quand même. Donc voilà, on retrouve l'origine du fruit dans le sorbet. C'est ça qu'on recherche dans le sorbet, Martine Lambert, c'est de retrouver le goût du fruit.
Bien sûr, et là j'en profite aussi pour vous dire qu'un vrai sorbet, c'est pas une glace à l'eau.
Ah non.
J'entends souvent cette réflexion, pour moi c'est une véritable insulte. Un sorbet, c'est du fruit et du sucre.
On voit aussi quelquefois des artisans glaciers, enfin des glaciers qui mettent sur leur devanture maître glacier ou haute glacerie.
Là, j'ai juste envie de sourire, personne ne me verra. Mais plus vous voyez ce genre d'autopromotion avec des titres ronflants, plus vous pouvez fuir au bout de la place.
Alors c'est vrai que je pense par exemple à quelqu'un qui fait des glaces magnifiques à Paris qui s'appelle Emmanuel Rion, qui est meilleur ouvrier de France, qui a été champion du monde de pâtisserie. Et sur sa devanture, c'est pas marqué haute pâtisserie, haute glacerie ou maître artisan glacier. Il est dans le 3e arrondissement, si vous êtes de passage à la capitale, ça vaut le détour comme ça de déguster une belle glace. Je pense aussi à Nicolas De Sistre qui nous écoute régulièrement le samedi et qui est à Marseille. Vanninoir, je ne sais pas si vous connaissez Martine, Vanninoir à Marseille, c'est comme vous, c'est un puriste de la glace, de la crème glacée et du sorbet. Ils l'ont fait une d'ailleurs à la Vanninoir avec des vrais grains de vanille. Alors là aussi, il faut expliquer par exemple que la vanille qu'on retrouve souvent dans les glaces industrielles, c'est la gousse qui a été broyée en fait, hein, c'est pas des vrais grains de vanille.
On appelle ça de la gousse épuisée.
Voilà.
Oui, vieille gousse.
Elle nous épuise aussi.
Mais moi je pense que très important dans une glace quand on la déguste, il faut savoir qu'elle doit rafraîchir. C'est-à-dire que c'est l'équilibre avec le sucre, parce que c'est vrai que dès que ce côté trop sucré quelque part, qu'il faut se la donne, parce que ça amène de la rondeur, ça amène soi-disant un plaisir, mais ça enlève le fruit. Là, ce qui est remarquable quand je goûte le sorbet fraise, c'est qu'on a le goût de la fraise. On est dans le fruit. On n'est pas dans le sucre.
Merci.
C'est moi, bon, je dirais, et je rajouterais un autre indice pour trouver la bonne glacerie à côté de chez soi, c'est celle où il y a tout le temps la queue.
Exactement,
en toute
vrai.
Saison, enfin, en plein hiver, si vous avez 10 personnes à attendre, c'est un bon indice. Hein.
On va rappeler les règles, tiens, Martine Lambert, entre la glace et le sorbet, pour les gens qui nous écoutent. La glace, donc, c'est du fruit et de la crème glacée. Racontez-nous exactement les
Alors,
compositions.
Le fruit, on le retrouve partout. Moi, c'est mon univers, c'est mon fil rouge. La vanille, on peut le qualifier de fruit ou de légume, comme on voudra, puisqu'à l'origine, c'est un haricot. Mais après, quand on est sur le chocolat, sur le café, sur la noisette, on est toujours sur le fruit. Et nous faisons, par exemple, nos propres extraits de café. On s'adresse à un torréfacteur de Bordeaux qui grille son café, qui est un fou des origines, un malade, un peu comme nous.
Il vous fait un mélange d'origine, du coup ?
Nous, on fait des glaces café sur du mocha d'Éthiopie, sur du Panama Geisha, etc. Et c'est indiqué sur l'étiquette.
Et vous mettez plus de 471, vous, dedans ? Je la taquine. Le 471, c'est du mono et diglycéride d'acide gras. C'est le truc qu'on met à l'intérieur des glaces industrielles pour donner du volume et faire de la quantité et vendre du vent, comme on le disait. Au fait, peau ou cornet, Martine Lambert ?
Alors ça, je laisse mes clients choisir. Mais... Il y a aussi le cornet enrobé de chocolat par nos soins.
Ah bah voilà, moi ça ce sera ma préférence. Ne bougez pas, on revient dans
un
instant.
Votre couvert de chantilly, bien sûr.
Et comment on va en parler de la chantilly avec Jean-Pierre Pernaut qui est en train d'arriver. Avec ces fortes chaleurs, vous avez sans doute envie de jouer au glacier à la maison. Alors ne bougez pas, on vous dit comment faire juste après ça. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
La table des bons vivants a décidé de vous offrir de la fraîcheur pour mieux supporter cette canicule. Alors profitez, on parle glace avec Laurent Mariotte sur Europe 1.
Les glaces s'achètent en cornet, en pot, elles se mangent en se baladant. Mais pour se rafraîchir en ce samedi caniculaire, on peut aussi les faire à la maison. C'est ce que nous allons voir et entendre avec Martine Lambert, glacière à Deauville, qui nous donne ses tuyaux. Glacière à Paris aussi maintenant, Martine
bien
Lambert.
Bien sûr, bien sûr. Et glacière avec mon fils, j'en profite quand même pour faire une petite parenthèse, parce qu'il ne va pas être content s'il nous écoute, de se considérer comme totalement absent de l'organisation, ce qui n'est pas vrai.
Martine, je veux faire des glaces à la maison. Qu'est-ce que je fais ? J'achète une sorbetière ?
Franchement, je vous le déconseille.
Pourquoi ?
Déjà, vous n'obtiendrez jamais un bon produit foisonné, texturé, comme chez un glacier. Le matériel n'est pas assez puissant en termes de froid. Il est bruyant dans la cuisine et il prend de la place.
Alors, c'est quoi votre truc, justement, pour faire des glaces à la maison ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, franchement, je déconseille. Ou alors, pour les enfants, dans des bacs à glaçons, bon, vous mettez un mélange de jus de fruits, centrifugé, un peu de sucre. Quand ça commence à prendre, vous plantez un bâtonnet et ils auront une divine sucette glacée.
Exactement. Voilà. Faut pas vouloir faire plus compliqué que ça. Moi, j'ai fait des esquimaux concombres avec un petit peu de menthe et du citron vert. Vous faites un petit sirop simplement avec de l'eau et du sucre. Vous mélangez tout ça. Et aujourd'hui, on trouve des bacs dans lesquels on peut mettre les bâtons comme pour les esquimaux et on fait ça à la maison. Mmh. Vous validez, Yves Candebord, vous aimez le granité aussi, vous, en tant que chef cuisinier.
C'est vrai qu'on n'arrivera jamais à avoir la qualité qu'on a là quand on fait des glaces à la maison, mais après, c'est vrai qu'avec les enfants, pour s'amuser, si on a des fraises, on met des fraises au congélateur, carrément, on les met au congélateur, une fois qu'elles sont dures, on les met dans un mixeur avec des glaçons et on mixe l'ensemble, donc on a une pâte glacée de fraises qui ne ressemble pas du tout à une fraise, mais qui est assez sympathique, qui est assez marrant.
Par contre, je pense que pour personnaliser un dessert glacé, il y a une autre formule qui consiste à cuisiner les fruits. Les fruits peuvent être pochés, ils peuvent être rôtis, mis en carpaccio, etc. Et là, vous avez la touche homemade, et là, vous pouvez l'accompagner d'une glace.
Et on peut faire des chauds-froids aussi, des poêlés de fruits, comme le disait Yves Candebord, et on met la glace juste à côté. Anne Lorfam.
Et moi, je rajouterais, j'ai beaucoup d'amis qui ont acheté une sorbetière, qui se sont ruinés parce que ça coûte extrêmement cher, et qui prend la poussière maintenant depuis plusieurs années, parce que c'est embêtant à utiliser, et c'est très saisonnier. Donc évitons ce gros achat.
Vous avez complètement raison, et après, il y a le granité. Laurent en parlait, c'est très simple. C'est de l'eau avec du sucre, alors on va dire un litre d'eau avec 250 g de sucre, on fait bouillir, une fois que c'est froid, on y rajoute dedans une purée de fruits, on prend des fraises ou une banane qu'on va mixer, on mélange l'ensemble, vous le mettez au congélateur, dans une plaque avec une épaisseur de 1 cm, une fois que c'est bien pris, avec une cuillère, vous grattez. Voilà. Et ça c'est sympa aussi, ça sur un petit dessert, quand il fait bien chaud l'été, déposer ce petit granité sur un petit dessert, c'est toujours agréable, ça fait l'effet et c'est frais.
Et puis la framboise écrasée avec la belle crème fraîche de Normandie, Martine Lambert, quand on met dans un petit bac dans le congélateur, ça marche toujours ça. Hein, on fait tout ça à la maison, toutes les mamies ont ça dans le congélateur pour recevoir les petits-enfants en été.
Mais bien sûr, mais retrouver les pêche-mêle bas.
Ah oui, j'adore ce dessert.
Dans ma boutique à Deauville, j'offre un petit coulis de framboise, 100% framboise, sans sucre du tout. Et j'explique aux clientes qu'elles nappent leurs fruits pochés, soit éventuellement les fraises, puisqu'on peut faire la même chose, à la façon d'une vinaigrette, si vous voulez. Elles vont enrober avec ce coulis et elles vont servir une glace vanille avec ou un citron vert éventuellement. Là, vous faites un dessert miracle.
Merci Martine Lambert d'être venue à la table des bons vivants, nous rafraîchir avec vos glaces et vos sorbets. On viendra vous faire un petit coucou à Deauville et à Paris maintenant, puisque vous y êtes. Merci Martine Lambert.
Europe 1, 11h, 12h30. Laurent Mariotte.
Bientôt midi moins le quart, c'est l'heure de retrouver l'ami Jean-Luc Petit-Renaud. Alors, il était en vadrouille en Corse pour dédicacer son dernier livre. Et vous pensez bien qu'il en a profité pour découvrir de nouvelles adresses. Alors, suivons le guide Petit-Renaud. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour les jolis camarades. Qu'est-ce que vous diriez déjà des pré-vacances avec une petite escapade en Corse, à Bastia exactement. Écoutez, je rentre de cette destination. J'ai des adresses plein les poches, et notamment la Litorne. Et la Litorne, c'est en gros à 2 km du centre de Bastia. La Litorne, c'est un petit passereau, un petit oiseau qui niche très haut sur les arbres, un peu comme cette auberge qui est tenue par deux frères corses, les frères Auberti. Croyez-moi, il y a toutes les familles corses qui viennent là-haut prendre le frais. Autour de pizza remarquable qu'un des frères fait. L'autre est à un côté un peu supporter du Tour de France avec une casquette blanche sur la tête. Il fait les cocktails, il fait les tapas. Alors la terrasse est de l'autre côté de la route et vous voyez les clients traverser un verre à la main. Les voitures les évitent, il n'y a pas de passage clouté, tout se passe bien depuis des décennies dans cette jolie maison. On repart avec les confitures de Mathilde, l'épouse d'un des deux frères, et puis le pain aussi qu'elle sait faire. Voilà une jolie petite adresse en Corse, une adresse un peu secrète où les oiseaux chantent et les clients aussi, figurez-vous.
Ah, merci l'ami Jean-Luc, c'est vrai que la Corse et ses bonnes adresses, c'est une joie. Yves Courdebord, une belle adresse, tiens, comme ça, au débeauté en Corse.
Ben, puisqu'on parle de glace, on va rester dans les glaces, on va aller à Saint-Florent. À Saint-Florent, il y a l'île au dessert. Oh,
c'est joli là-bas.
Voilà, c'est très joli déjà le lieu, mais la Corse est belle. Voilà, la Corse, elle est belle, il faut le dire, c'est une réalité. L'île au dessert à Saint-Florent qui font une glace au miel de Patrimonio de Pierre Carli. C'est une petite merveille. C'est José Salge. Et si je vous promets, c'est un régal.
Anne-Laure Femme.
Moi, je vous emmène plus au sud, dans la région de mon grand-père, à Solacaro. C'est le moulin Farellacci. C'est en face du golfe de Propriane. Moi, c'est une cuisine corse que j'aime, contemporaine, spontanée. Et vous avez aussi Félix Thor à Coutoli, à quelques kilomètres de Ajaccio. C'est de la fantastique charcuterie.
Allez.
Allez-y.
Et une dernière adresse. Tiens, si vous allez en Corse cet été, les charcuteries de Pascal Fiori à Murato, en Haute-Corse. Elles sont magnifiques avec des cochons élevés sur l'île et pas venus de Bretagne et transformés sur place. Voilà, du vrai cochon comme on aime. Il est à la tête du journal télévisé de 13h depuis 30 ans. Il est rare de l'entendre à la radio. Jean-Pierre Pernaut est notre invité dans un instant. On est ravis de le recevoir. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, Laurent Mariotte accueille des invités à la table des bons vivants, mais il vous écoute aussi. Et oui, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la laisser sur le répondeur d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute.
Merci d'être là les amis, restez bien avec nous au frais. Écoutez-nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Originaire d'Amiens, il découvre le monde des actualités en faisant un stage au Courrier Picard. Après un passage à l'ORTF, il entre à TF1 où il succède à Yves Mourouzi. Son idée de parler de l'actualité de nos régions grâce à des correspondants locaux est vite un succès. Il est à la tête du rendez-vous télévisé le plus regardé de la journée en France. Ambassadeur des régions, il est l'homme qui a fait d'un journal de proximité un journal national. C'est Jean-Pierre Pernaut, notre invité. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Laurent, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous.
Ah ben on est ravi de vous recevoir. Plus de 5 millions de téléspectateurs chaque midi.
Oui.
Sur TF1.
Oui, il y en a eu davantage avant l'arrivée de la TNT, avant tout ça, mais bon... On se maintient bien, il y a plus de 40% de part d'audience, on est content. Et puis surtout, vous le disiez Laurent, le travail dans les régions est essentiel pour être au plus près des gens, de leurs préoccupations, mais aussi de leur grand bonheur. Il y a des choses merveilleuses dans ce pays.
On s'est moqué de vous au début, hein, avec pas mal, hein, vous en avez pris pas mal. Et justement, on voit que tout le monde y vient justement à l'actualité des régions parce qu'on veut se recentrer et se reconnecter avec les territoires ruraux.
Oui, avec la vie des vrais gens tout simplement.
Exactement.
Alors il y a des tas de choses à montrer, il y a des passions à montrer, ça c'est la partie magazine du journal. Où on joue sur les traditions, on montre des gens qui ont des savoir-faire absolument extraordinaires, qui ont la passion au bout des doigts et on arrive à le montrer dans de merveilleux reportages. Et puis l'actualité vue par les régions, et c'est pour ça qu'on avait vu la crise des Gilets jaunes arriver un an avant tout le monde.
Une question que tout le monde se pose, tiens. À quelle heure il mange, Jean-Pierre Pernaut? Il mange avant après le journal?
Avant, on ne peut pas. Avant, on est en plein préparatif. Le journal se prépare entre 7h30 et 13h35. Il continue à bouger pendant le journal. Et après le journal, je déjeune souvent avec mon équipe dans soit un petit resto à côté de TF1, soit à la cantine de TF1, où on mange bien.
On vous voit au self avec votre plateau repas, ben oui. Absolument. Nous partageons le même amour pour les marchés, Jean-Pierre. On a vu le succès de votre saison 2 du plus beau marché de France. C'est une super idée, ça aussi.
Alors ça m'est venu l'année dernière, parce que c'est vrai que quand on veut tester l'opinion, quand on veut l'opinion de gens sur un sujet ou un autre, on va souvent demander des gens sur un marché. Ce que font les hommes politiques en campagne électorale, d'ailleurs. Il ferait bien d'y aller toute l'année et tout le temps. Nous, on y va tout le temps, et c'est là qu'on arrive à savoir si les gens vont bien, s'ils vont mal, s'ils sont heureux, s'il y a de bons produits, si ça sent bon, quels sont leurs accents. C'est sur un marché qu'on sent les pays et qu'on sent les gens. Et à force d'y aller, je me suis dit, bon, allez, on va essayer d'organiser un petit concours. Et puis la première saison a été formidable, gagnée par Sanary-sur-Mer, qui a un joli marché au bord de la mer avec les pointus et tout, c'est joli. Et cette année, c'est Montbrison qui a gagné. Je ne connaissais pas Montbrison. Et ils ont une fourme que j'ai découvert là-bas qui est délicieuse.
Alors quel est votre goût de la semaine justement?
La fourme de Montbrison. C'est comme c'est un peu moins gras que la fourme d'Ambert. C'est ce fromage un peu avec du roquefort à l'intérieur.
Oui, c'est un fromage persillé qui est ensemencé.
Fromage persillé, mais il est pas gras du tout et je l'aime beaucoup. Il est doux, il est magnifique.
Une belle fourme de Montbrison, par exemple, avec des légumes, ça marche très très bien, ça. On peut se faire plaisir sur des légumes crus aussi. Bah, avec
c'est un vrai assaisonnement, ouais. Ça remplace l'assaisonnement.
Exactement.
Voilà. Complètement, c'est délicieux.
Jean-Pierre Pernaud, de plus en plus de gens font leur jus eux-mêmes. Est-ce que vous êtes mis au jus, vous ?
Non.
Non ? Eh ben alors nous, on s'y est mis pour vous, figurez-vous.
Alors dans le studio, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a des couleurs merveilleuses partout.
Eh bien, ce sont les jus d'Yves Condebord, parce qu'il nous a fait trois petites merveilles que vous allez entendre et déguster avec nous. On va se remettre effectivement tous au jus. Yves Condebord, on sait qu'il y a deux manières de les faire, à la centrifugeuse ou alors à l'extracteur de jus. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Eh bien, écoutez, Laurent, j'ai testé, j'ai utilisé les deux appareils. Alors, on va commencer par l'extracteur. Et on va commencer à aller par le négatif, parce qu'il y a un positif et un négatif pour les deux machines. Et c'est vrai que le négatif de l'extracteur, voilà, c'est que ça demande un peu de temps. Voilà, parce que c'est quand même un peu plus long à faire qu'à la centrifugeuse. Mais après, le vrai positif de l'extracteur de jus, en fait, quand ça broie et ça presse les légumes ou les fruits très délicatement avec une vis sans fin, ce qui fait qu'on sépare la pulpe et le jus avec beaucoup de souplesse. C'est une vitesse qui est vraiment très, très, très lente.
Et on conserve les principes actifs, les nutriments et les vitamines des fruits. Hein.
Tout à fait. On conserve tous les nutriments et toutes les vitamines du fruit. C'est vrai qu'on a vraiment un jus très vitaminé. Et aussi très important, il n'y a pas d'oxydation.
Et la centrifugeuse, alors ?
Alors, la centrifugeuse, c'est différent. C'est quelque chose qui est beaucoup plus violent. Voilà, parce qu'étant donné que c'est par la force centrifuge, donc ça tourne à une vitesse, une rotation très importante. Donc, on sépare, ça fait la même chose. Hein. On sépare donc la pulpe du jus et on a un jus qui coule, qui est très agréable en bouche, mais par contre, qui n'a aucun intérêt nutritionnel.
Donc, s'il faut choisir ?
Alors, s'il faut choisir, je dirais l'homme pressé va dire
centrifugeuse, ouais.
Mais l'homme qui est délicat, l'homme qui veut prendre plus de temps et qui a envie aussi d'avoir, voilà, justement, être en bonne santé, avoir des bonnes vitamines, avoir des bons nutriments, je dirais, choisissez l'extracteur de jus, c'est une vraie différence.
Alors avant de déguster les beaux jus que vous avez fait pour nous, quelles sont les règles, tiens, pour nos auditeurs, s'ils veulent faire un jus à la maison, à la centrifugeuse ou à l'extracteur ?
Pour moi, il y a trois règles principales. La première, c'est pas plus de trois saveurs.
Ah oui.
Avec peut-être un petit condiment pour assaisonner, mais trois saveurs. Après, bien sûr, il y a la règle, comme pour la cuisine, de la saison.
Bien sûr, produit de saison.
Et après, la vraie règle qui est pertinente et qui marche à tous les coups, c'est marier des produits de la même couleur.
Ah oui, ah,
et
c'est
ça
pour
marche
ça
tout le temps.
Qu'on a des belles couleurs intenses. Alors là, j'en ai un joli vert justement.
Ouais, le qu'est-ce vert que c'est ?
Il est beau votre jus vert.
On en a fait trois. On en a fait donc le vert, c'est concombre, fenouil, Granny Smith.
Ah, c'est bon, ça désaltère ça.
Avec une petite pointe de citron vert là pour redonner un peu de peps.
Ah, c'est super ça.
On le sent le citron vert, on sent bien. Un petit poil, il y en a quand même. Ça se sent bien.
Ça relève et
c'est péchu.
Pas, et c'est pas trop sucré, Jean-Pierre Pernaud. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est délicieux.
Hein, on n'est pas dans le jus de fruits industriel où on rajoute du sucre.
Ah, non. Là, le deuxième, Laurent, l'orange. Donc là, c'est un grand classique en fait de compte. C'est carotte, orange et gingembre. Là, c'est aussi, vous allez voir, c'est très tonique.
Ah, vous y êtes allé sur le gingembre, là.
Le matin, quand on se réveille, Laurent, quand on boit ça, ça nous donne la force, ça éveille.
C'est antiseptique, en plus, le gingembre.
Et le troisième...
C'est mon préféré, le troisième.
Mais parce qu'il est... Ouais, si, moi aussi, je préfère. Je l'aime bien, parce qu'on le consomme moins souvent, il est plus original.
Oh, c'est bon,
c'est
ça.
C'est tomate, poivron et la pêche.
Ah oui.
Ah, la pêche.
Et
génial.
C'est relevé avec une pointe de piment d'Espelette.
Ah, bah, le fameux.
La petite touche.
C'est pour ça qu'on le préfère. On aime bien le Pays Basque.
Le Pays Basque, il fait beau d'ailleurs, ce week-end où ils sont un peu plus au frais que le reste de la France d'ailleurs.
Mais je peux vous assurer, Laurent, c'est des jus qui sont très faciles à faire. J'ai envie de vous dire, n'achetez pas des jus préparés. Faites-les vous-même. Il y a un résultat qui est totalement différent.
Je peux vous poser une question, Yves. Là, il y a des mélanges. On peut essayer soi-même des mélanges improbables comme pêche et concombre, ou je ne sais pas.
Après, j'ai envie de vous dire, c'est chacun à son goût. Et justement, le fait de faire les jus soi-même, on peut les personnaliser à son goût. Et c'est tout l'intérêt.
Mais la même couleur, c'est vrai que c'est intéressant de mettre les fruits et les légumes de la même couleur et de les marier ensemble. C'est une bonne idée. On va retenir ça pour ce week-end parce que je pense que de nombreux auditeurs vont se mettre au jus ce week-end. Ne bougez pas. Bientôt midi, on se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Pernaud qui nous fait le plaisir d'être à la table des bons vivants. Vous aimez les abricots, Jean-Pierre Pernaud ?
J'adore, ils sont délicieux cette année.
Vous aimez la chantilly, Jean-Pierre Pernaud ?
J'adore.
Eh bien, on va vous faire des abricots à la chantilly. Ce sera juste après les titres de la camarade Fabienne Lemoyle. À tout de suite sur Europe 1.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous serons dans le Gard où la vigilance rouge canicule a été levée. comme pour l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Mais ce qui inquiète désormais dans le Gard, ce sont les départs de feu, plus d'une 160 depuis hier matin, avec des habitants qui ont dû être évacués. En tout, ce sont 620 hectares qui sont partis en fumée et 11 maisons qui ont été touchées. Certains feux ne sont toujours pas fixés ce matin près de Garon et de Saint-Gilles. Nous rejoindrons à Vauvert notre envoyé spécial Romain Oquet, à Vauvert où la nuit a été éprouvante. Nous verrons aussi avec Laurent Cabrol que la fin de la canicule c'est pour demain soir, mais que le temps continuera à rester chaud et ensoleillé. Et Laurent nous dira qu'on va encore atteindre les 40 degrés par endroit aujourd'hui, comme à Montluçon ou à Tours. Le réchauffement climatique, c'était l'une des questions clés du G20 d'Osaka au Japon qui vient de s'achever, avec les Américains qui ont bataillé jusqu'au bout pour qu'on ne parle pas climat dans la déclaration finale. Pour autant, 19 pays ont bien réaffirmé leur engagement à respecter les accords de Paris. Nous rejoindrons sur place notre envoyé spécial Jean-Rémy Baudot et on verra ce qu'il faut penser de cet accord à minima avec mon invité Henri Weissmann, il est spécialiste du climat à l'IDRI. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons bien sûr sur l'élimination des Bleus de la Coupe du Monde après leur défaite 2-1 face aux États-Unis. Mais elles ont gagné la bataille du cœur, nous dira Julien Froment, avec encore un carton d'audience à la télé hier soir. 12 millions de téléspectateurs. On y reviendra aussi, bien sûr, longuement dans le journal des sports, présenté par Christophe Lamar.
Merci Fabienne. Il est midi, bon samedi ensoleillé avec Europe 1. On est le 29 juin.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Courgettes de Nice, glaces et sorbets artisanaux, des jus bien frais pour trinquer. La table des bons vivants se met au rythme des grandes chaleurs cette semaine. Et Jean-Pierre Pernaut est notre invité. Vous pensez bien qu'il la suit, cette actualité calorique, chaleur. Oui. Votre truc, Jean-Pierre, tiens, justement, pour vous rafraîchir et affronter la chaleur.
Oh, comme tout le monde, j'essaie de trouver un petit coin de fraîcheur dans la maison. Souvent, c'est à la cave. Mais bon, j'ai failli dormir une fois ou deux cette semaine.
Sur le lit de camp, c'est bien.
Non, sinon, c'est de boire beaucoup. De boire frais, voilà, je me fais des jus de citron, moi.
On parlait de glace artisanale il y a un instant avec notre invité Martine Lambert, Jean-Pierre Pernaut. En 30 ans de journal télévisé, on peut dire que vous avez fait plus pour l'artisanat que plusieurs ministères.
Hein. Non, j'ai pas fait ça, on a surtout montré la passion d'artisan, de métier que l'on disait en voie de disparition il y a une vingtaine d'années. C'est pour ça qu'au début, on se moquait de moi en disant « qu'est-ce que c'est que ces trucs, ringards,
oui,
etc.
Ah, » Il nous parle des sabotiers.
Et un jour, un ministre a décrété que ces métiers en voie de disparition devenaient des métiers d'art. C'était Jack Lang qui a eu cette idée formidable de dire « maintenant, ce n'est pas des métiers en voie de disparition, on va les remettre au goût du jour. » Alors c'est vitrailliste, c'est des métiers extraordinaires, charron, qui fabrique des roues en bois et qui sont redevenus à la mode avec la mode des courses d'attelage. Des gens, je me souviens d'un charron qui ne trouvait pas d'apprenti, qui allait perdre son petit atelier, il était âgé, et il n'avait pas de clients, et puis les courses d'attelage sont arrivées, on est retourné le voir quelques années plus tard, il était entouré de 5-6 apprentis qui faisaient des roues en bois merveilleusement bien. Voilà, la fabrication des tonneaux en bois, on n'aurait pas du si bon vin si on ne savait pas faire des tonneaux.
Les foudres.
Voilà, ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau. Bon, des tas de choses comme ça qu'on essaie de montrer, la passion, les savoir-faire au fil des années, maintenant... De plus en plus de jeunes se tournent vers ces métiers-là.
On se connaît bien, Jean-Pierre. Alors, je sais que vous préférez les petits bistrots aux grandes tables gastronomiques. Il y a un plat pour lequel vous êtes prêt à faire des kilomètres ?
Oh, une bonne tête de veau, oui. Mais bon, je suis désolé, je suis picard. Donc,
Alors, vous avez en face de vous Yves Courdebord, l'homme qui a modernisé justement la tête de veau. Tiens, avec l'effort de chaleur, un carpaccio tête de veau.
Oui, tout à fait. Mais surtout, vous n'avez pas à vous excuser parce que vous aimez la tête de veau.
J'adore. Au contraire,
c'est magnifique.
Mais oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, voilà, avec les techniques de travail qu'on a mis en place, de moderniser aussi un peu ces plats qui étaient au départ quand même des plats divers, c'était quand même des plats chaleureux. Donc, on fait en ce moment un carpaccio de tête de veau. C'est-à-dire qu'on cuit la tête de veau de façon classique, roulée. On la coupe à la machine à jambon, mais vraiment très, très finement. On la dépose sur une assiette. On la voile juste un peu sur la température ambiante pour lui donner un peu de moelleux. Et dessus, on remet les garnitures de la grimiche classique, c'est-à-dire les petits oignons, les cornichons, les œufs hachés, du persil, trait d'huile d'olive.
J'en rêve.
On y est.
Et on a quelque chose voilà, qui ça fait, c'est une tête de veau d'été.
D'accord.
On a fait une tête de veau d'hiver, nous, je vous emmenais à l'assiette de David Reichweber, justement, dans le 14e à Paris.
C'est un plat qui me rappelle plein de saveurs de ma jeunesse, quoi. Mais c'était le plat du dimanche, la tête de veau ou la langue de bœuf. surtout en plat d'hiver, bien évidemment, et en plat d'été comme ça en carpaccio, c'est une bonne idée.
Vous êtes un bec sucré, Jean-Pierre Pernaud ?
Non, j'aime tout. Hein.
Vous aimez tout, hein. Alors justement, on vous a préparé un dessert fruité et léger, des abricots rôtis à la chantilly. Pour devenir le roi de la chantilly, Julien Lucas, le chef de la table du Connétable à Chantilly, nous donne tous ses trucs et on va l'accompagner avec des abricots rôtis. C'était au micro de Marion Sauveur.
On va commencer par les abricots. On essaye au mieux de travailler avec les légumes et les fruits de la région. Donc là, on a les tout premiers et ça vient de Sacy-le-Grand. On va les couper donc en deux. On va saupoudrer d'un sucre vergeoise. Il va apporter un côté caramélisé.
Un peu de gourmandise.
Là, je mets donc une petite noisette de beurre et je vais les cuire à 170 degrés. Entre 8 et 10 minutes, il faut qu'ils soient cuits mais qu'ils restent fermes. Et bien, on va faire la chantilly. Donc là, mon cul de poule qui sort du frigo, je l'ai mis dans un saladier avec un peu de glace en dessous pour que tout soit bien froid. Je vais y incorporer la gousse de vanille et la crème.
Bien froide parce qu'elle sort du frigo. Hein.
Exactement. Et je vais commencer à fouetter tranquillement. Alors, vous voyez, je fais pas de grands gestes. Hein. J'y vais tout doucement et là, on incorpore généreusement de l'air dedans. Chaque coup de fouet, je commence à voir le fond de mon cul de poule. Donc là, je l'ajoute le sucre, je l'ajoute en une seule fois. Et j'incorpore également ma mascarpone. Parce que là, maintenant, il faut lui donner du corps.
C'est ça qui va faire qu'elle va se tenir. Hein.
Ouais, ah oui. Je lève le fouet. On appelle ça bec d'oiseau. C'est-à-dire que ma chantilly est terminée. Tout de suite au frigo. Je récupère les abricots. Il faut les laisser refroidir. C'est bien meilleur quand c'est froid. Hein. Donc là, j'ai récupéré la moitié des abricots. Je vais les mixer maintenant. Je vais incorporer ma verveine. Donc là, je continue à bien mixer. Et donc, maintenant, on va passer au dressage. Le cuisinier, lui, il fait des quenelles.
Oh, c'est joli.
Fin juin, on a envie de quelque chose de frais, donc...
Eh ben, on va goûter.
On a l'acidité de l'abricot, le côté doux derrière avec la chantilly.
Ah oui, qu'est-ce que c'est bon, la chantilly.
Faut toujours en faire un peu plus.
Faut toujours qu'il y ait du rab, évidemment. C'est un joli contraste, effectivement. Yves Courdebornes.
Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est bon, la chantilly, Laurent.
Alors, mention spéciale à Julien Amat de la rédaction. Il vient de faire ça juste avant l'émission. Des abricots rôtis avec Mohamed ici à la cantine. Et puis, il s'est mis à foisonner lui-même sa chantilly. Alors, une crème liquide entière bien froide, comme on l'a dit.
Il y a une chose très importante qui a été dite dans le reportage. Faut vraiment l'en mentionner. C'est surtout pas trop la battre. C'est ce qu'on appelle faire le bec. Oui. C'est quand vous trempez le fouet dans la chantilly, quand vous le sortez, il y a un petit bec. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si vous battez trop la chantilly, elle se transforme en beurre.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre
J'en
Pernaud
pense que l'association chantilly-abricot, je n'avais jamais essayé. C'est délicieux.
Et avec ces fortes chaleurs, ça passe tout seul en plus.
Ah oui, hein, ça passe. C'est frais aussi.
Oui, mais... c'est l'acidité de l'abricot justement qui vient en contraste avec la rondeur de la chantilly. Ouais. Et la chantilly, quand même, c'est gourmand, mais c'est léger.
Exactement. C'est riche, c'est aérien. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Yves Candebord ?
Ah ben moi, je dirais, j'irai sur les côtes de l'Ain, j'irai boire un petit cerdon. C'est le vin pétillant du Bugey qui est magnifique et qui est légèrement fruité, qui est rosé, et ça se marie à merveille avec l'acidité de l'abricot.
Anne-Laure Flamme.
Moi, j'aurais une petite bière à recommander, une bière un peu d'été, justement, aux notes de pêche blanche, avec un houblon bien relevé, épicé, qui ferait écho aux abricots. C'est la Clement's Summer Wheat chez Deck et Donu. Moi, j'aime beaucoup.
Elle adore la bière, elle en parle très bien, Anne-Laure Flamme. Bière ou vin, Jean-Pierre Pernaud ?
Les deux, plutôt le vin l'hiver, plutôt la bière l'été. La bière, ça rafraîchit aussi bien.
C'est vrai que ça rafraîchit bien, hein, avec modération.
Il y a de bonnes bières. Il y a de plus en plus de brasseries partout, de petites brasseries qui font des petites bières formidables.
Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Jean-Pierre Pernaud pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 39-21. Restez bien au frais, nous sommes là jusqu'à midi et demi. A tout de suite.
11h, midi 30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Comme chaque samedi, vous êtes invité à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte, qui reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous voyez tous les jours à 13h sur TF1.
Bienvenue à la table des bons vivants, nous sommes en bonne compagnie. Jean-Pierre Pernaud est avec nous ce samedi midi. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites le samedi après une semaine intense à la tête du journal télévisé ?
J'essaie de me reposer, j'accompagne mon fils au karting. Mon fils est né dans ses courses de voiture parce qu'on est passionné de sport auto. Moi, j'ai arrêté d'en faire depuis 2 ans. Et puis, avant, j'avais un potager, j'ai arrêté, c'est trop compliqué. Je préfère acheter une botte de radis, ça coûte moins cher que de s'en occuper soi-même. Et puis voilà, de temps en temps, je fais des barbecues l'été, je fais des pot-au-feu l'hiver.
On m'a dit que vous assuriez en grillade. Hein. Il y a deux recettes qu'il maîtrise, Jean-Pierre, c'est le pot-au-feu et les grillades l'été.
Voilà, c'est les deux choses que je sais faire à peu près.
Alors c'est quoi?
Même
c'est...
les omelettes, j'ai du mal, mais j'y arrive quand même.
C'est côte de bœuf, c'est chipolata,
c'est n'importe quoi, c'est côte de bœuf, c'est des côtes d'agneau, c'est des poissons, c'est... N'importe quoi, j'aime bien les grillades, j'aime bien dehors surtout.
Vous avez préfacé le livre « Ces recettes qui font la France » de Frédéric Ziegermann, c'était en 2015 chez Flammarion. C'est quoi votre spécialité régionale préférée du moment ? Allez, du moment, parce que je sais que c'est compliqué de choisir.
La mienne, bon, je sais pas, en Picardie, on a plein de choses. On a des ficelles picardes, on a du pâté de canard, on a des macarons d'Amiens. Bonjour, Madame Macron.
C'est la famille Trogneux.
Ses parents font de délicieux macarons. Non, j'aime bien ma région, la ficelle picarde, j'adore en manger, mais je ne sais pas comment on l'a fait.
Ah bon, on va faire une spéciale ficelle picarde, hein. Yves Condebord.
Moi, je veux bien.
Ce sera la rencontre du Sud-Ouest et de la Picardie.
Oui. Et puis du gibier aussi, c'est une région de chasse où il y a beaucoup d'excellents gibiers.
Agriculture, alimentation, produits de saison, vous le savez, chaque samedi, vous avez la parole au 39-21. Voici la première question.
Bonjour, Rodolphe de Clermont-Ferrand. J'ai une question concernant les fruits et légumes de saison. Peut-on donner n'importe quel fruit ou légume à un enfant d'environ un an ? Y en a-t-il de plus conseillés que d'autres et d'autres déconseillés ? Merci à la table des bons vivants.
Alors Rodolphe, eh bien moi je dirais que oui, comme ça j'ai presque envie de vous dire, il faut leur faire goûter tout à nos petits enfants.
Oui, je pense que c'est l'éducation des goûts qui commence là, mais c'est vrai qu'après il faut leur proposer ça soit de façon écrasée, soit de façon cuite ou mixée. Quoi.
Très mixée, voilà, très lisse. On sait que la carotte fait un carton auprès des enfants parce qu'elle a ce petit goût sucré.
Hein. Oui, mais même quand on parlait de la courgette, une belle petite purée de courgette à ce côté un peu noisette, c'est toujours très agréable. Et après sur les fruits, une fraise bien écrasée, une banane bien écrasée. Au contraire, je pense justement qu'il faut privilégier tous ces produits frais, ces produits cuisinés, plutôt que les petits pots industriels qui sont chargés
en pesticides.
Il y a des bio qui sont plutôt clean, ça va.
Il y a une législation sur ça.
Hein. Le bio, il faut quand même qu'il dise, regardez, il y a toujours un E quelque chose.
Il y a une législation sur les petits pots quand même, parce que même les industriels qui font des petits pots ont des parcelles spécialisées justement, où normalement on s'engage à ne pas traiter. Quoi.
Prendre une casserole, couper une carotte dedans, la faire bouillir dans de l'eau, après la mixer, c'est quand même
meilleur. Nous sommes d'accord et c'est pas compliqué quand même.
On est à court de temps, ça existe. Mais moi j'ajouterais que pour les épices aussi, il faut pas hésiter à les acclimater tout doucement, à mettre des petites touches comme ça de curry ou de gingembre moulu, mais vraiment par petites touches pour les acclimater à l'assaisonnement. Ça marchait bien avec mon fils.
Alors il faut néanmoins éviter avant un an révolu les kiwis, les fraises et les fruits exotiques et les fruits rouges parce qu'il y a peut-être des risques allergènes chez certains enfants. Donc on dit que ça en général c'est après un an qu'il faut leur faire manger ce genre de produit. Et pareil pour le céleri, je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être un petit peu costaud comme goût et que ça peut effrayer nos enfants. Mais je comprends pas ça.
Oui, non, mais après j'ai envie de vous dire, faut le faire goûter. Et puis s'ils n'en veulent pas, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas forcer. Et les enfants, après, c'est eux qui vont faire leur tri naturellement.
Et ils ne se laissent jamais mourir de faim.
Non.
Une autre question au 39-21.
Oui, bonjour, c'est Violette. J'habite à Paris, mais très bientôt, je vais partir en vacances avec ma famille et nous adorons, comme tout le monde, faire des barbecues. Donc en fait, j'avais une petite question par rapport à la plancha. Parce que j'ai entendu dire que c'était plus sain de faire des barbecues avec une plancha au-dessus. Est-ce que c'est vrai ? Quels sont les avantages d'en avoir une ? Je me demandais si vous pouviez répondre à ma question.
Vous avez, Violette, le roi du barbecue à notre table, c'est Jean-Pierre Pernaut.
Non, pas le roi.
Il va vous répondre. Vous êtes plancha ou barbecue d'ailleurs, vous ?
Plutôt barbecue. Mais je pense que la plancha doit être meilleure.
Yves Condebord.
Je ne sais pas si le mot meilleur est juste. Ah, c'est totalement différent. Quoi. Le goût est totalement différent. C'est vrai que le barbecue, quand on maîtrise la braise, parce que c'est la délicatesse du barbecue, c'est savoir maîtriser la braise, justement pour ne pas qu'il y ait la flamme, parce que la flamme, quand elle passe sur le produit, c'est pas bon pour la santé.
C'est pas bon, c'est pas bon.
Mais le goût du barbecue, c'est quand même une petite merveille quand c'est bien présenté. Ouais. Par contre, c'est vrai que la plancha, c'est très facile. Voilà, en fin de compte, c'est une plaque qu'on allume, en mettant pratiquement pas de corps gras. On peut rôtir dessus viande, poisson ou légumes, mais ça n'a pas le même goût.
On fera une spéciale barbecue, tiens, la semaine prochaine, on vous donnera plein d'idées de recettes pour bien attaquer l'été. Ne bougez pas, Jean-Pierre Pernaut est notre invité et nous allons le découvrir dans la dernière partie de l'autre côté de la fourchette pour savoir quel type de bon vivant il est. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1. Europe 1.
Avec ces températures, pas question de parler fondu à la table des bons vivants. Laurent, avec Jean-Pierre Pernaut, on se laisse plus tenter par du frais aujourd'hui.
Absolument, Justine. Entre les salades, les jus, les gazpacho et les abricots à la chantilly pour Jean-Pierre Pernaut, de la fraîcheur avant toute chose. Et vous retrouverez la recette d'ailleurs des abricots à la chantilly sur notre site europe1.fr. Tout se passe bien, Jean-Pierre ?
Tout se passe bien. C'est la première fois que j'ai une émission de radio où on déjeune merveilleusement bien.
Bon, bah, écoutez, vous êtes le bienvenu. Vous avez votre rond de serviette. Hein. Vous revenez quand vous voulez.
Oui, je vais revenir demain.
Vous êtes à la tête du journal de 13h de TF1 depuis plus de 30 ans. À l'heure où nous sommes de plus en plus sensibilisés à l'écologie, quel rôle doivent jouer nos campagnes et le monde rural, selon vous ?
Elles ne doivent pas le jouer, elles le jouent depuis longtemps, elles l'ont toujours joué. Et c'est pas, l'écologie, elle vient pas des villes, l'écologie, elle vient des campagnes. Ce sont les paysans qui entretiennent notre pays, tous les pays d'ailleurs, et qui parfois l'ont pollué, eux-mêmes se rendent compte qu'ils doivent arrêter de le polluer, mais ils l'entretiennent, c'est déjà merveilleux, et puis ils font des choses magnifiques partout. Il y a de plus en plus de gens qui font du bio maintenant, mais il y en a toujours eu. Le bio, à un moment, c'était triste. Puis quand on a commencé à faire, je sais pas, du pinard bio, du pot-au-feu bio, du cassoulet bio, ça a commencé à devenir festif. Ça, c'est pas parce que c'est bio que ça doit pas être festif.
Bah évidemment. Est-ce que vous vous intéressez au vin, Jean-Pierre Pernaut ?
Oui, pour le boire.
Alors, c'est l'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls habituellement, mais comme il est au frais dans sa cave, justement, eh bien, ce sont les 2 minutes cocktail d'Anne-Laure Femme et Anne-Laure. Ben voilà, on entend le bruit des glaçons. Vous allez nous donner quelques idées, tiens, pour changer des mojitos et autres spritz.
Oui, je vous sens un peu là, Laurent, de
oui,
ces cocktails
vrai,
un peu trop à la mode.
Oui.
On va être un peu précurseur. On va enchaîner sur le Negroni. C'est le pendant naturel du spritz et du ginto pour le côté gin. Et ça veut dire que nos palais, désormais, et je m'en réjouis, sont très ouverts à l'amertume.
Ah, j'adore ça, moi, l'amertume.
Et vous allez me dire, dedans, il y a quoi ? Du gin, de la mer, mais aussi du vermouth. Et c'est ce dont je veux vous parler. C'est un apéritif à base de vin blanc et de plantes. Et
oui.
Vous en avez du blanc et du rouge, c'est pas du tout les raisins utilisés, attention, qui font la différence de couleur, c'est l'ajout de caramel. Et le niveau d'alcool est entre 15 et 18 degrés. Donc on est sur du raisonnable, j'ai envie de dire.
Alors le vermouth, c'est ça, c'est un vin blanc parfumé avec des plantes. Hein.
Voilà, et on l'utilise notamment dans un cocktail, je crois que vous adorez, c'est l'Americano.
Ah, Americano, j'adore ça aussi, oui, bien sûr, vous me connaissez bien.
Le dry martini cher à l'espion le plus célèbre du cinéma, James Bond, qui adore boire. Alors tout part donc du vermouth, c'est cette bouteille rouge qui traîne peut-être dans votre bar depuis une éternité et qui prend la poussière. Pour la petite histoire, c'est Antonio Benedetto Carpano, un Italien de Turin, qui est le premier à avoir consigné la recette par écrit en 1786 à la base du vin blanc, du bois d'armoise pour l'amertume.
Ah oui ?
Et armoise en allemand, ça se dit comment ? Vermouth.
Ah,
voilà.
Bah voilà.
Donc vous savez tout.
Tout vient de là.
Et il y avait déjà des plantes, des épices et du sucre.
C'est un petit peu rétro en fait, c'est un petit peu vintage comme apéro, mais je trouve ça sympa moi.
Eh oui, parce qu'on est hyper à la mode à boire du vermouth comme au 19e siècle, en France et en Espagne, parmi les familles chic et nobles, on adorait ça, sec ou avec des glaçons.
C'est vrai que le bruit des glaçons, ça pourrait faire penser au bruit des cloches des chèvres dans les pâturages ou des vaches.
C'est vrai ce que vous disiez, c'est la bouteille qu'on a quelque part poussiéreuse et qu'on n'ouvre pas.
Exactement.
J'en ai une à la maison, c'est vrai, mais là, en goûtant, j'ai envie de l'ouvrir de tout à l'heure, tiens.
Ah, vous aimez cette saveur, l'amertume, comme
mais
ça,
oui,
qui,
c'est hein,
ça rafraîchit, ah, oui. Ça ouvre le palais, Yves Candebord,
ouais,
l'amertume.
Tout à fait, bon, ça me fait penser de suite à la Suze, hein.
Voilà, oui, c'est de la gentiane.
Est-ce qu'on
oui.
peut le faire avec la Suze ?
Mais oui, tout à fait. On peut prendre un tonic, c'est ce que j'ai fait. Un tonic, c'est une eau pétillante avec des épices et du sucre et qu'on mélange avec des spiritueux comme ça. La Suze, du vermouth, ça marche. Là, je vous ai servi du Select, qui est un super vermouth italien de Venise. Vous en avez aussi un qui s'appelle Del Professor, qui vient du Piémont et que j'adore et qui est vendu sur whisky.fr. La maison du whisky. N'hésitez pas à investir dans le vermouth. Il y a des choses merveilleuses et ça vient du monde entier.
Qu'est-ce qu'on boit là, Anne-Laure Femme ?
Alors, moi j'ai mis du vermouth Select et des glaçons, autant que vous voulez, pour rafraîchir le verre. Attention, c'est important. Et du tonic.
Et la couleur rouge, c'est le vermouth qui la donne.
Voilà, tout à fait. Ça ressemble au spritz de loin, en moins orangé et en plus rouge.
Et en moins sucré aussi.
Voilà. Hein ? Une dernière chose, on peut maintenant tout à fait s'initier à l'univers du vermouth dans les Vermouteria. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Paris en avril, qui s'appelle Cachette avec un quart de l'arbre sec à Paris. Plus de 60 vermouths du monde entier, c'est génial. Allez-y.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure Femme et on retrouvera les références sur europe1.fr. C'est vrai que l'amertume, en ces temps caniculaires, ça fait du bien. Jean-Pierre Pernaut, c'est l'heure de vous découvrir de l'autre côté de la fourchette. Vous êtes prêt ?
Oui, allons-y.
C'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Jean-Pierre ?
La première idée qui me vient, c'est quoi ? C'est les clémentines. Pourquoi ? Parce que les clémentines, pour moi, étaient synonymes de Noël. On n'avait pas de clémentines avant Noël, quand je suis né, dans les années 50. Et il y avait des clémentines au pied du sapin. Et pour moi, la clémentine était synonyme de Noël. Et j'ai ce goût qui me revient. Et puis celui de la langue de bœuf que me préparait ma mère merveilleusement bien.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable.
Il y en a eu plein de repas beaux, mais le plus beau repas de ma vie, c'est celui de mon mariage.
Qu'est-ce qu'on a mangé au mariage de Jean-Pierre
Pernaut ? Je ne m'en souviens plus, mais ma femme était magnifique.
C'est beau ! Quelle belle réponse ! Quel est l'ingrédient que vous n'aimez pas retrouver en cuisine, Jean-Pierre Pernaut ?
Je crois qu'il n'y en a aucun. Je crois qu'il n'y en a aucun, parce que j'aime bien goûter tout, que ce soit en France ou à l'étranger. Il n'y a pas d'ingrédient que je n'aime pas.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
Alors, quelques côtes de bœuf pour faire une grillade avec une boîte d'allumettes. Je sais pas, du poisson pour faire une grillade. Quoi d'autre ?
Un gâteau basque, on m'a dit que vous aimiez.
Un gâteau basque, hein ? Ah oui, c'est un gâteau basque. Si je peux partir avec un gâteau basque. Alors, le gâteau basque avec ou sans confiture ? Sans.
Sans.
Sans, ah oui, d'accord. C'est le classique.
Classique.
Quel est votre mot préféré en cuisine, Jean-Pierre ?
C'est bon, c'est bon.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Mon dîner idéal, c'est ma famille, c'est ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, voilà, c'est la famille.
Votre adresse secrète, tiens ?
J'ai pas d'adresse secrète, j'ai des petits restos où j'aime bien aller, notamment puisqu'on parle du Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz, parce que j'ai des copains, parce qu'on chante au bar. Je connais un petit resto qui s'appelle l'Alcalde, qui est pas loin de la place Louis XIV. Il y en a un autre près de la Nivelle, c'est ça qui s'appelle l'Aranzaleac, je crois.
Aranzaleac, Ramoucho Courdi.
Ramoucho.
J'adore cet endroit.
Une auberge de poisson magnifique.
C'est une auberge de poisson magnifique, avec des grillades de viande aussi qui sont très bonnes. Et des petites nappes à carreaux, j'adorais cet endroit quand j'allais souvent au Pays Basque.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Jean-Pierre Pernaut.
À table, à table, à
table. Eh bien, nous y sommes. On y est. Merci infiniment d'être venu à la table des bons vivants.
Merci Laurent de m'avoir invité.
Je sais que vous avez des semaines chargées, donc merci d'avoir été avec nous ce samedi midi à l'heure du déjeuner, justement. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve évidemment tous les jours au journal de 13h, sauf le week-end. Merci à Lucie Lescourou, Julien Amat et Louise Delaroy de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, Marie Jacquet pour la programmation, les recettes de courgettes marinées, les jus de Yves Candebord. Toutes ces recettes, vous les trouverez évidemment sur notre site europe1.fr. Bon week-end, faites le marché à la fraîche et la cuisine au frais. On se retrouve la semaine prochaine. Mangez léger, hydratez-vous et bon samedi les amis. À samedi prochain.
À samedi prochain Laurent. En vous attendant, le programme continue sur Europe 1 avec dans quelques minutes l'arrivée de Fabienne Lemoyle et son journal de la mi-journée. Et à 15h pile, comme chaque week-end, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et l'acteur Gérard Jugnot pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors très bon samedi, il est midi 27 sur Europe 1.